Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Plus de vie. Je suis le pasteur Jérémy Gadroit et je vous invite aujourd'hui dans une réflexion autour du texte qui se trouve dans Luc au chapitre 13 et au verset 10. C'est l'histoire d'une femme qui est tenue courbée et on va voir comment sa vie va changer. Avant ça, je vous invite à présenter ces moments qu'on va passer ensemble au Seigneur. Merci Seigneur encore pour qui tu es et tout ce que tu fais. Merci Père pour ce don parfait que tu nous as offert en Christ et au travers de l'œuvre de la croix. Merci encore pour ta patience et ton pardon dans nos vies de chaque jour. Merci encore aussi pour le rôle que tu nous donnes de jouer dans ce monde, de pouvoir faire du bien, de pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous et pour le berger que tu es encore aujourd'hui. Ce berger qui protège nos vies et qui nous garde à chaque instant. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit encore qui vient et qui nous donne cette force pour tenir jour après jour, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les questionnements qui sont toujours dans nos vies. Et merci pour ta parole qui vraiment Seigneur est là pour nous conduire, qui est cette lumière à nos pieds, sur notre sentier, qui est là pour nous guider Seigneur. Merci encore pour ce saint livre qui est là et qui nous fait du bien et qui en même temps sait nous reprendre lorsque nous nous manquons. Donne-nous de le respecter ce saint livre, donne-nous de le recevoir comme venant de toi-même et de ton cœur, comme étant une lettre d'amour mais aussi comme étant un mode d'emploi. Merci Seigneur et merci pour la bonne nouvelle qui y est contenue. Que ton nom soit béni et fait que tous les courbés puissent se relever au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à lire, bien sûr, ce texte. Donc, je répète, c'est dans Luc, chapitre 13 et verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Ce texte est extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il me parle d'une bonne nouvelle. Une femme qui était tenue courbée et qui va être délivrée. Je crois de tout mon cœur que ce qu'on va partager va nous faire du bien et peut-être que ça peut vous encourager à vous aussi dans votre vie si vous vous sentez courbé. Déjà, ce que l'on voit, c'est que cette femme est handicapée. Elle est tout le temps courbée, elle a toujours la tête vers le bas. Elle est là, elle marche, elle ne peut pas redresser sa tête, se tenir bien droite, debout. Elle ne peut pas regarder loin devant, elle est toujours à regarder près d'elle, près de ses pieds. Elle est ramenée à avoir une petite vision. Et peut-être qu'aussi nous, dans notre vie, on est un peu comme ça, on est une femme ou un homme qui avons du mal à regarder loin devant, à avoir de l'espérance, à faire des projets. On est toujours, à cause de quelque chose dans notre vie qui nous tient courbés, à regarder juste devant nos pieds et à ne pas pouvoir nous projeter. La Bible déclare que un jour, lorsque nous mourrons sur cette terre, ou alors lorsque Jésus viendra nous chercher, eh bien nous serons dans le ciel pour l'éternité avec lui. Il y a tout un programme, mais je ne veux pas le développer maintenant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un avenir pour nous. Dans Jérémie, chapitre 29 et verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et si ce texte parle bien sûr à Israël en tout premier, je crois aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons nous approprier ces paroles et nous pouvons croire que Dieu a des projets pour nous. Il a un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Cette femme, elle ne pouvait pas regarder vraiment loin devant. Elle ne pouvait pas non plus regarder les gens en face. Elle était tenue courbée, donc elle ne pouvait pas vraiment se tenir à la même hauteur que les autres. Peut-être qu'on pourrait comparer ça avec la vie de quelqu'un qui serait toujours avec cette sensation à l'intérieur d'être toujours moins que les autres, moins importante, moins précieuse que les autres. Et j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas moins important que les autres, vous n'êtes pas moins précieux. On a tous une intelligence différente, on a tous des capacités et des dons différents. Mais une chose est sûre aux yeux de Dieu, l'amour de Dieu nous concerne tous et il a des plans, des projets pour chacun. Il suffit de le laisser agir dans notre vie. Et cette femme qui ne pouvait pas voir les autres en face, qui était peut-être plus petite que les autres, qui était peut-être moindre que les autres aux yeux des autres, la femme qui est courbée, qui peut rien faire, qui ne peut même pas travailler, qui peut pas attraper quelque chose en haut d'une étagère, qu'il faut tout le temps aider, qui dépend tout le temps des autres. C'est peut-être une sensation que quelqu'un peut aussi avoir. Je pense que cette femme aussi peut nous parler à nous tous dans des moments particuliers de notre vie et pour un domaine particulier. Toujours est-il que ça ne fait pas 2 jours que c'est comme ça. Ça n'est pas non plus 1 an, 2 ans. Ça fait 18 ans que cette femme est tenue courbée et qu'elle est comme ça handicapée dans sa vie et qu'elle ne peut pas vivre normalement. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée possédée ? Je crois que la Bible est claire, elle dit c'est un esprit mauvais, c'est quelque chose de démoniaque, c'est quelque chose de satanique, puisqu'il est dit, Jésus va le dire plus tard, Satan la tenait courbée. Et là, au début, il est dit qu'un esprit, impur la rendait infirme depuis 18 ans. Alors, n'allons pas dire que toutes les personnes courbées sont des personnes possédées, ou toutes les personnes malades ont quelque chose de satanique ou de diabolique sur leur vie. Il faut bien faire la différence. Il y a des maladies qui sont simplement d'une usure de l'homme, d'une défaillance au niveau de la santé. Mais en tout cas, pour cette femme, c'est bien précisé qu'elle est malade, elle est tenue comme ça, handicapée, à cause d'un esprit de quelque chose de diabolique et de démoniaque. La Bible déclare que les pratiques occultes ouvrent une porte dans notre être et permettent à Satan et ses démons d'avoir une emprise sur nous. Je vous redirige bien sûr dans la Bible, au livre du Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 9 à 13, où Dieu donne quelques instructions, complétées par plein d'autres textes dans la Bible, mais qui montrent que tout ce qui est voyance, astrologie, pratiques occultes comme cela, sont vraiment en abomination aux yeux de Dieu. Et ça ouvre une brèche, vraiment. Et le diable peut avoir atteinte à l'être des personnes qui pratiquent ces choses-là. Donc je ne peux que vous encourager à vous éloigner de ces pratiques-là. N'allez pas voir un voyant, une voyante, un magnétiseur, quelqu'un qui toucherait à ces choses occultes. Ils vont dire qu'ils ont un don de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Faites attention à tout ça. Celui qui guérit, c'est Jésus, ce n'est même pas un pasteur, un curé ou qui que ce soit. Celui qui sait guérir nos cœurs, guérir nos corps ou régénérer notre esprit, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu et il le fait par le Saint-Esprit. N'allons pas voir toutes ces personnes, ça ouvre des brèches vraiment pour Satan et pour les démons. Pour le cas de cette femme, en tout cas dans la Bible, il ne nous est pas dit comment c'est arrivé. Et ce n'est pas important. On n'a pas à raconter ces choses-là. Je crois que la Bible ne le fait pas. Et c'est important de laisser ces choses de côté. Mais en tout cas, on est averti. Cette femme, elle était dans ce cas-là. Mais en tout cas, on ne sait pas comment elle s'est retrouvée sous l'emprise de Satan. La Bible nous déclare par contre qu'il y a bien des choses qui peuvent nous tenir courbés. Je vous invite à prendre dans le livre des Psaumes au chapitre 38 et au verset 4. Regardez avec moi. Psaume 38, verset 4. Désolé, je prends juste le temps de tourner les pages et d'arriver dans le texte dans ma Bible. Je n'ai pas voulu recopier les versets à côté dans mes notes. Je préfère chercher directement. Psaume 38, verset 4, il est dit « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. » Que dit le psalmiste ? Et ici, c'est un psaume de David. David est en train de dire que ses iniquités, ça veut dire quoi ? Ses péchés font qu'il est tenu courbé, et qu'il s'en veut à l'intérieur. Il a un lourd fardeau sur lui, et c'est trop pesant pour lui. Il va décrire vraiment cela comme s'il était blessé dans son corps. Écoutez-moi bien, il y a quelque chose d'autre que Satan ou un démon qui peut me tenir courbé, et il y a le péché. Le péché qui est là et qui est comme un poids sur ma vie. Les gens croient que lorsqu'ils vont pécher, ils vont se sortir d'une affaire, sortir d'une situation Ou bien, ils vont pouvoir enfin se faire plaisir sans limite, sans penser au mal ou au bien. Et ils essayent par une piqûre d'anesthésie de se dire « le péché, c'est pas grave, d'ailleurs le péché, c'est mignon ». La Bible déclare que le péché, ce n'est pas mignon. Le péché, ça dévore et ça détruit. C'est un poison et c'est un fardeau sur nos vies qui nous tient courbés. Vous vous souvenez de Caïn ? Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève. Caïn va avoir de la colère dans son cœur, de la jalousie, ce péché-là. Et Dieu va lui dire, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. C'est très important. Le péché est un fardeau pour notre vie. Et peut-être que vous êtes dans cette situation. Ce n'est pas un esprit mauvais ou Satan qui vous tient courbé directement par quelque chose d'occulte. Mais c'est le péché lui-même, c'est tout ce que Satan vous a poussé à faire ou tout ce que la tentation simplement vous a poussé à faire, vous êtes tombé dans le péché et ce péché est comme un fardeau sur votre vie. J'ai rencontré des papis et des mamies qui, alors qu'ils étaient aux portes de la mort, étaient encore sous le poids d'un fardeau et d'un péché. Et ils ont dû me partager vraiment qu'ils avaient commis des choses qui les travaillaient depuis des années. Et enfin, quand on a pu les présenter à Jésus, comme cette femme, elle a pu être avec une rencontre avec Jésus, ont pu être délivrés de ce fardeau qui les tenait courbés. Ne restez pas dans le péché, demandez pardon pour votre péché, j'aimerais le rappeler aujourd'hui et ce matin si vous écoutez ce message dimanche, ce soir si vous écoutez ce message jeudi, mais simplement, Jésus est mort à la croix pour tes péchés et il veut te pardonner, il suffit que tu te repentes, ça veut dire que tu confesses tes péchés à Dieu et que tu refuses d'y retourner. Tu comptes sur sa grâce pour ne plus y retourner. Vous le faites et je crois que Dieu vous bénit et vous pardonne de tous vos péchés. La deuxième chose que je voudrais relever, toujours dans le livre des psaumes, cette fois-ci au chapitre 55, au verset 3, il est parlé d'une autre chose qui pourrait nous tenir courbés. Psaume 55, verset 3. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Verset 5, « Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. » Ce texte nous parle d'une autre chose qui peut nous tenir comme la tête en bas, courbée, c'est l'inquiétude. David, encore une fois, c'est David qui écrit ce texte et ce psaume. Il explique que les soucis sont là et lui donnent un chagrin qui est lourd dans son cœur, une inquiétude. Son cœur tremble au-dedans, les terreurs de la mort le surprennent, la crainte et l'épouvante l'assaillent et le frisson l'enveloppe. Il y a des moments de notre vie où l'inquiétude est tellement forte, nos cœurs tombent tellement dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'angoisse, que, eh bien, il nous est impossible de regarder loin devant, de nous tenir la tête haute, de pouvoir affronter les choses de la vie avec espérance. L'inquiétude est là, et c'est encore une fois comme un fardeau, comme une blessure pour notre être intérieur, une terreur qui est là et qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Peut-être que c'est cela qui vous tient et qui vous empêche de vous tenir droit, d'avoir une vision claire sur les choses, d'avoir de l'espérance. J'aimerais vous dire, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va dire que nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu sait pourvoir aux petits oiseaux qui sont dans le ciel. Il sait pourvoir à l'herbe et aux lys des champs pour les habiller. Il sait pourvoir en toutes choses. Il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans que Dieu ne le sache. Et tout cela, Dieu l'a montré, Jésus l'a relevé pour que nous puissions être pleins d'espérance. Paul encore dans Philippiens, je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais j'aime ce texte. Philippiens au chapitre 4, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jésus dira encore « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. » Et en fait, qu'est-ce qui peut pallier à mes inquiétudes? Qu'est-ce qui peut me sortir de mes inquiétudes? C'est la parole de Dieu. Lisez la Bible, lisez cette bonne nouvelle, lisez ces textes. Essayez de connaître le cœur de Dieu au travers de la Bible. Essayez de connaître Jésus au travers de la Bible. Essayez de voir toutes les expériences qu'ont vécues ceux qui se sont confiés en Dieu, en Jésus, qui ont invoqué le Saint-Esprit sur leur vie pour découvrir que dans toutes les situations les plus désespérées, il y a une solution et cette solution, elle est en Dieu et pour nous, elle est en Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est tellement important. Et Jésus, si vous êtes courbé, est capable de venir et de vous délivrer de votre infirmité si ce sont les inquiétudes qui vous tiennent courbé comme cela. J'aimerais aujourd'hui vous rappeler qu'il n'y a pas de situation trop dure pour que Dieu pour que Jésus n'intervienne. C'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut tout faire. Il nous aime. Vous savez qu'on triomphe de tout dans l'amour. La loi tout entière est résumée dans une chose, l'amour. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et une bonne nouvelle, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Nous sommes précieuses, nous sommes précieux. Peut-être quelqu'un est inquiet de la mort parce qu'il a une menace de mort, la maladie est là ou quelqu'un veut s'en prendre à sa vie. J'aimerais vous dire, priez, suppliez Dieu de venir à votre secours comme David le fait dans les psaumes. Relisez les psaumes et vous allez voir comment Dieu l'a secouru et comment il a pu mourir de vieillesse parce que Dieu a été là dans les moments les plus difficiles. Une dernière chose que je voudrais prendre avec vous et qui est sujet à nous courber et à nous tenir courbés, c'est dans l'évangile de Matthieu au verset 4. Il est parlé des pharisiens, des scribes, de ces religieux mauvais qui étaient là. Et il est écrit « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Que nous dit ce texte ? Ce texte dit que la religion de certains peut-être un poids et un fardeau qui ne donne aucun salut, mais bien au contraire, qui ferme la porte à l'espérance et au royaume des cieux, à ceux qui voudraient pourtant y entrer. Et il faut faire bien attention à faire la différence entre notre foi en Christ, notre foi en Dieu, notre foi dans la parole de Dieu, dans la Bible, et entre la religion de certains. Attention, je ne suis pas du tout en train de juger une quelconque religion et de poser un verdict. Je m'interdis dans mes pensées d'avoir un quelconque pointage de doigt. Je dis juste quelque chose et je relève quelque chose qu'on pourrait tout à fait appliquer à mon enseignement, que je fais maintenant ou que je fais tous les jours de ma vie. Simplement, un principe biblique, attention à ne pas ajouter des choses à la parole de Dieu qui viendraient empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux par des sortes de traditions ou de commandements qui ne seraient plus du tout inspirés par l'Esprit de Dieu et la pensée de Dieu. Et regardez un peu ce qui s'est passé dans le texte de Luc au chapitre 13 et au verset 10 qu'on vient de lire. On va aller un peu plus loin. Verset 14, il est dit, après que cette femme fut délivrée, que le chef de la synagogue a été indigné parce que Jésus a fait une guérison le jour du sabbat. Et cet homme va dire, il y a 6 jours pour vous faire guérir, venez donc ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Jésus va lui dire quelque chose d'incroyable et de fort. Il va lui dire, hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Est-ce que si un de vos bétails tombe dans le fossé, dira Jésus dans un autre texte, n'irez-vous pas le jour du sabbat le tirer du fossé? Alors cette femme que tenait courbée Satan depuis 18 ans et qui est une fille d'Abraham, ne devait-elle pas être délivrée le jour du sabbat? Jésus va expliquer que quand on fait de la Bible une tradition ou quelque chose qui n'est juste qu'un enchaînement de commandements pour mériter le ciel, on s'éloigne de l'Esprit de Dieu et de l'amour que Jésus veut répandre sur les hommes pour les sauver de leurs péchés et puis les sauver de leur poids et de leur fardeau qui les tient courbés. Jésus va être très sévère. Vous savez, Jésus n'est jamais aussi sévère envers les pécheurs. Jésus a été tellement sévère envers les mauvais religieux qui avait toujours une attitude qui tenait les gens courbés au lieu de les laisser libres et de les rendre libres au travers de la lumière qui était dans les paroles et l'enseignement de Christ et de la Bible. Alors peut-être, oui, que la religion est quelque chose qui peut nous tenir courbés. Tu ne dois pas manger ça tel jour. Tu ne dois pas aller à tel endroit tel jour. Tu ne dois pas marcher plus de tant de distance tel jour. Tu ne dois pas te faire guérir tel jour. Et toutes sortes de prétextes qui vont au-delà de l'esprit de la loi. On se souvient très bien de ces disciples qui, le jour du sabbat, marchaient dans les champs et ont mangé des épis de blé, du blé. Jésus va dire, mais est-ce que le sabbat a été fait pour l'homme ou est-ce que l'homme a été fait pour le sabbat? C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Alors, ne vous perdez pas dans des règles et des principes qui sont hors de bon sens. Jésus vient de nous révéler dans ce texte aussi, avec cette femme, que la religion peut être un fardeau. Je ne connais pas votre religion. Vous ne connaissez pas non plus mes pratiques à moi. Peut-être pas toutes, j'essaie de les exprimer, mais il faut les comparer à la Bible. Peu importe ce que l'on pense nous-mêmes ou ce qu'on nous enseigne, il faut tout comparer à la Bible. Les habitants de Bérée, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, il est écrit qu'ils avaient l'habitude de sonder dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. Et une religion aussi belle soit-elle, peut nous emmener dans des liens et dans des fardeaux qui ne sont pas de Dieu et desquels Jésus voudrait nous délivrer. Combien de personnes j'ai vues qui avaient une religion qu'ils avaient héritée de leurs parents mais qu'ils n'avaient pas choisie eux-mêmes, qu'ils ne suivaient pas de cœur, qu'ils avaient juste comme ça. Et quand ils la regardaient de loin, ils disaient « Oh là là, mais c'est tellement lourd, etc. » Et j'aimerais vous dire que Jésus ne nous demandera jamais quelque chose d'impossible à porter, et je vous en donne la preuve maintenant. Allons dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, pour terminer. Il est écrit, et on devra s'en souvenir toute notre vie, c'est là ce sur quoi je veux terminer aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus ne nous demandera jamais de porter quelque chose qui va nous écraser. Jésus ne nous conduira jamais vers une religion qui alourdit notre cœur. Jésus rend notre cœur léger, libre. Ça ne veut pas dire sans contrainte. Ça ne veut pas dire sans règles. Ça ne veut même pas dire sans habitude et sans discipline. Bien au contraire, Jésus nous enseigne que ça. Mais quand il nous demande de le faire et quand nous nous mettons à pratiquer simplement ce qu'il nous demande, ça n'amène pas de lourdeur à notre vie. Ça amène de la fraîcheur, de la liberté et qu'on relève la tête. Ça apporte de la dignité à notre vie. Ça apporte de l'épanouissement, ça apporte de l'assurance, ça apporte la vie. Et c'est ça qui est important. Retenez-le, retenons-le, je me mets avec vous. Je répète ce verset qu'on devrait apprendre par cœur. Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Que Dieu soit béni. Je crois que Jésus nous donne la clé. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. On trouvera le repos pour nos âmes. Jésus n'a pas parlé en vain, il l'a prouvé dans Luc, au chapitre 13 et au verset 10 avec cette femme. Je crois que Jésus, lorsqu'il dit quelque chose, on peut le prendre au sérieux. Jésus ne ment pas, car il est Dieu et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors il y a devant nous ce choix. Vais-je accepter le repos de Jésus ou vais-je continuer à marcher courbé? Je vais prier. Merci Seigneur pour cet échange, pour ce partage, pour cette méditation, qu'elle devienne réalité dans notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse